Les paysages sonores sous-marins, une symphonie de découverte. C'est le titre d'une conférence animée par Lucia Di Iorio, bioacousticienne. On a suivi cette chercheuse d'une sortie en mer au Frioul.
Vous êtes invitée à monter sur le pont supérieur pour qu'on écoute l'intervention de Lucia Di Iorio et les commentaires qu'elle va en faire.
Jusqu'à l'événement du soir qui s'est tenu à la Cité de la Musique, à Marseille. Ce moment d'échange et d'écoute de sons de la mer a été organisé par l'association Opéra Mundi, qui nous invite à penser à partir du paysage.
Et là, on entend le son qui est enregistré par le micro. Et alors, elle vous demande juste pour l'instant, pendant 40 secondes, d'écouter ce son. Sans parler.
Moi, c'est Lucia. Comme Eric a dit, je suis chercheur en biologie marine, mais j'étudie les sons. Donc, combien d'entendre, à votre avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser?
Cécile Arnold, je dirige l'association Opéra Mundi avec Éric Giraud. On propose des cycles de conférences thématiques. Partons de l'environnement pour parler des grandes questions contemporaines et d'un monde complexe, en crise. Il nous a semblé important, avec ces cycles de conférences, d'apporter des éléments critiques, du sens, un certain nombre de questionnements que se posent les gens. Notre intention est de toucher le public le plus large, donc on organise des conférences grand public dans des lieux principalement à Marseille, donc je disais au FRAC, mais aussi dans les bibliothèques de Marseille, à l'Alcazar en particulier. Il nous est arrivé d'intervenir aussi à la Criée, au MUSEM, et également nous intervenons à Vitrolles et sur tout le territoire de la métropole.
Et alors, à chaque saison, vous avez une thématique qui lie toutes les conférences. En 2021-2022, c'est penser le paysage. Pourquoi cette thématique?
Plutôt penser à partir du paysage, c'est-à-dire comprendre en quoi le paysage est un lieu d'expérience où nous vivons, qui nous ramène à ces interactions, à cette cohabitation justement avec un paysage qui n'est pas forcément un décor. On l'a souvent longtemps considéré comme un décor, mais en fait le paysage, comme dit Gilles Clément, en transformation constante, et nous transformons aussi constamment avec ces paysages.
Fin mars, une des conférences de ce cycle-là, pensée à partir du paysage, c'est sur les paysages sonores, et vous avez convié à cette occasion Lucia Di Iorio, qui est éco-acousticienne et qui travaille sur les mondes sous-marins.
Oui, tout à fait. Lucia Di Iorio est une grande scientifique qui travaille dans cette discipline assez peu connue, qui est l'éco-acoustique, et qui est une discipline scientifique assez nouvelle, notamment du point de vue sous-marin. Écouter les sons sous-marins, c'est quelque chose qui a produit des résultats scientifiques assez stupéfiants depuis une dizaine d'années. Il travaille vraiment à essayer de comprendre en quoi ces paysages sonores nous informent sur les modes d'habiter de tous ces êtres vivants qui vivent sous la mer. On connaît tous le chant des mammifères marins qui sont les cétacés, les baleines, etc. Mais on connaît assez peu finalement le chant des invertébrés, des oursins, ce qu'on appelle le chant, mais c'est plutôt les sons produits par ces animaux qui sont des sons qui nous renseignent justement sur leur mode de reproduction, leur mode d'habiter. Et ce qui est très important et intéressant, c'est que ces prises de son créent justement des paysages à un instant donné qu'on pourra comparer dans le futur aussi avec des émissions sonores en prise avec l'évolution de la crise actuelle. Et Lucia Di Iorio va aussi nous parler des impacts dans cette conférence, des impacts climatiques, mais aussi des perturbations sonores que subissent le monde sous-marin, le monde des profondeurs.
Après, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on entendait un moteur. Le bateau qui est là-bas.
Notamment, je pense aux bateaux, tous les transports offshore qui se développent. Si on pense en Méditerranée, je crois que c'est assez stupéfiant, en fait, quand on en prend la mesure.
Vous voyez là-bas, au fond, il y a un il y a un bateau. Ben, c'est lui qu'on entendait. Sous l'eau, quand on enregistre des bruits, t'entends tout. On a entendu le clapotis des vagues. On entend les vagues, on entend le vent, on entend les animaux et on entend les bruits. J'aurais bien aimé vous faire écouter des poissons aussi, ou des dauphins. Ah, vous savez tous que les dauphins et les baleines, ils font des sons. Mais les poissons et les crevettes, peut-être vous ne saviez pas forcément. Ah. Mais ici, en Méditerranée, proche des côtes, c'est ça qu'on entend le plus. C'est les crevettes et c'est les poissons. Donc je vais vous faire écouter des sons de d'autres animaux. Hein, on va aller sur des choses que j'ai déjà enregistrées, d'accord? Et après, on essaie de deviner un peu et à votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent dire en faisant ces sons-là? Peut-être qu'ils ont un petit dialecte d'ici, un petit marseillais.
Je m'appelle Francis Talin, je suis responsable du pôle éducation, culture et développement social au Parc national des Calanques.
Et vous êtes ici à la conférence animée par Lucia Di Iorio. Qu'est-ce que le Parc national a à voir avec cet événement qui est autour du son de l'espace sous-marin?
On a un peu un rôle de passeur aujourd'hui parce que, on est... souvent au Parc national dans l'accueil du travail de chercheurs. Ce travail nous permet de connaître les espèces présentes, de mieux connaître leur diversité, leur façon de vivre et puis aussi de mieux comprendre les pressions que nos usages ont. Et c'est vrai que dans le Parc national des Calanques, où on passe très vite d'un milieu sauvage protégé au cœur de la ville, on a énormément de pressions humaines et c'est notre devoir de réfléchir justement aux nouvelles relations que l'on peut avoir avec le vivant. Donc cette connaissance est quelque chose de fondamental. C'est sur elle qu'on appuie toute notre réglementation, mais aussi sur laquelle on appuie notre éducation à l'environnement.
Dans le port de Fomègue, en fait, il n'y a plus de posidonie depuis Pompée à peu près.
Parce que nous, on peut faire des arts.
Écouter, c'est trois exemples de paysages sonores. J'ai évité de vous faire écouter le paysage sonore perturbé par l'homme, ça nous aurait fait un peu mal aux oreilles. Donc vous avez bien entendu, j'espère, qu'il y avait des différences. Donc en écoutant, on est capable aussi de dire où on est. Et ça déjà, les oreilles d'or des sous-marins, ils savaient ça très bien. Et quand on échange avec eux, ils peuvent te dire, en écoutant des océans, là on est au Pacifique, là on est plutôt là. Donc c'est vraiment, ça peut être des signatures d'habitat et de l'environnement. Donc ce qu'on a écouté, c'est trois habitats-là. Le premier, c'était un habitat rocheux, très riche. C'était un collage, c'était une petite compile. Parce qu'on n'a pas autant en milieu rocher d'un coup de type de son. Et donc c'était vraiment des sons typiques du milieu rocheux. Le deuxième qu'on a entendu, avec cette espèce de fantôme qui faisait ce bruit bizarre de fond, ça c'était un herbier de Posidonie, c'était un peu à la frontière d'un herbier de Posidonie. Et c'est très caractéristique pour l'herbier de Posidonie. Et le troisième, c'était aussi des bruits, c'était principalement ce qu'on a entendu, des bruits biologiques. Okay. Et le dernier, c'était le chant de la glace. C'est un enregistrement qui a été fait
en Arctique. C'est quoi un paysage sonore ?
En fait, les paysages sonores, ça décrit tous les sons. Donc les sons biologiques, qu'on appelle la biophonie, les sons naturels mais non biologiques, qu'on appelle la géophonie, et les sons humains, qu'on appelle l'anthropophonie.
Et donc au sein du parc, vous avez aussi des projets d'éco-acoustique pour entendre donc les rivages autour du parc qui est dans les Calanques.
Alors, les projets de recherche d'éco-acoustique, ils sont portés par les chercheurs, nous on les accueille, des fois on finance, on apporte nos moyens techniques. De notre côté, par exemple, ce soir, on est partenaire financier d'Opéra Mundi, on est partenaire aussi dans le travail que l'on fait en commun pour faire de l'éducation à l'environnement auprès des adultes. On en fait aussi auprès des enfants. C'est un moyen de diffuser et d'utiliser l'art, d'utiliser la science pour parler de paysages sonores sous-marins, pour parler du vivant et le regarder d'un œil ou d'une oreille que l'on n'a jamais eu.
Et alors, est-ce qu'il y a un son de poisson ou d'invertébré qui vous a particulièrement séduit ce soir ?
On reste devant le bruit que peut faire une langouste, mais les plus touchants, c'est quand même les sons des poissons, parce que finalement, même en ayant le métier que j'ai, je ne savais pas qui les poissons chantaient. Et les chants des rascasses, les chants du mérou, il est vraiment incroyable, lui.
Yolaine Callier, je suis responsable des écoles de musique de la Cité de la Musique et je m'occupe donc de tous les projets pédagogiques qui vont avec.
Et aujourd'hui, on s'est rencontrés donc à une balade en mer qui a été organisée par Opéra Mundi, à laquelle a participé la Cité de la Musique. Et trois classes ont participé à ce projet-là. Trois classes qui sont particulièrement suivies par la Cité de la Musique. Dans quel cadre ?
La Cité de la Musique, depuis 2007, anime des orchestres en milieu scolaire. Un à l'école élémentaire Corsec, donc dans le premier arrondissement, et au Collège Versailles, dans le 3e arrondissement. Le propos, c'est d'accompagner une classe scolaire sans prérequis. C'est-à-dire, on ne fait pas des tests. Ce sont les établissements scolaires qui choisissent les élèves. Et nous, on les accompagne pendant 3 ans en leur apprenant à jouer d'un instrument pour jouer en orchestre.
Et dans ce cadre-là, ils ont pu donc écouter le chant de la mer. En quoi c'est intéressant pour ces élèves-là d'avoir la perception d'un environnement, d'une musique qui est autre que celle qu'ils pratiquent pendant ces ateliers?
Avec ces enfants-là, évidemment, on leur apprend à jouer de la musique et d'ailleurs ça fonctionne très bien, mais on les sensibilise aussi un petit peu au milieu culturel de la ville. Alors on est partenaire avec l'Opéra de Marseille, avec le Festival d'Aix. La semaine dernière, ils ont joué pour Babel Mino. Enfin, voilà. On essaie qu'ils soient quand même concernés par les événements culturels qui arrivent. Et donc quand on a rencontré Éric Giraud, donc directeur d'Opéra Mundi, et qu'il nous a présenté le projet en nous disant qu'il voulait faire un temps dans l'après-midi sur l'eau avec des classes d'enfants ou d'adolescents pour les sensibiliser à cet univers sonore marin, on va dire, on s'est dit que c'était eux qu'il fallait qu'on choisisse, en fait.
Et Lucia Dioro continue cette journée en animant une conférence qui est tout public et ce soir dans l'enceinte de la Cité de la Musique, qui est donc à Belzunce, mais Cité de la Musique qui a plusieurs antennes dans toute la ville de Marseille. Et va animer une conférence qui s'appelle « Le chant des poissons ». Ça s'inscrit dans la programmation de la Cité de la Musique.
Oui, si vous voulez, ça nous a paru quand même très intéressant qu'on puisse accueillir en fait un événement qui a priori n'est pas très musical, une conférence, mais dont le sujet était à la fois le travail sur le son et quelque part aussi ce que ça peut apporter comme connaissance sur l'environnement et l'écologie.
Et alors la Cité de la musique, qu'est-ce qu'elle entend par musique justement ?
Alors elle entend la musique au pluriel en fait, en essayant d'aller vers toutes les esthétiques possibles et après d'essayer de réfléchir à leur transmission.
Je m'appelle François Wong, je suis enseignant à la Cité de la musique en classe de composition de musique électroacoustique.
Alors qu'est-ce que c'est la musique électroacoustique ?
La musique électroacoustique, là, c'est une musique qui considère en fait que tout son a un potentiel musical. Donc pas uniquement les sons instrumentaux évidemment, donc les sons qu'on qualifie un peu classiquement de musicaux, un violoncelle, une trompette. Mais nous on va s'intéresser de manière un peu plus large, au-delà des instruments traditionnels, on va s'intéresser à ce qu'on pourrait qualifier de bruit. On va tirer même complètement un potentiel musical de tous les sons qui nous entourent. Donc ça élargit en fait le champ, et ça élargit toutes les perspectives d'écriture de la musique. Et avec tous ces sons, on fabrique des compositions, on fait des pièces de musique.
Et un exemple nous a été donné à la Cité de la musique dans le cadre d'une conférence de Lucia Di Iorio. L'idée, c'était de partir des sons qu'elle a captés de l'écho acoustique, pour le coup, qu'elle mène dans le domaine de la recherche, et de partir des sons qu'elle a captés, des sons sous-marins, des sons des poissons, des invertébrés, et d'en faire des compositions que vous nous avez présentées. Qu'est-ce que l'écho acoustique apporte à l'électroacoustique ?
Dans notre pratique, nous, on passe beaucoup de temps à écouter le son, les sons, et essayer d'en tirer un potentiel musical et un potentiel poétique aussi, voir comment ils pourraient rentrer dans une narration, dans une composition. C'était un peu une figure imposée pour nous, hein, de travailler avec les sons qu'elle nous a proposés. Donc c'est une grosse banque de sons qu'elle a captés en mode sous-marin, avec des hydrophones, donc des micros qui vont capter sous la mer. Et à l'écoute de cette banque sonore, c'était presque merveilleux pour nous, parce que c'est vraiment des sons incroyables, et des sons très originaux, très particuliers. Il va y avoir beaucoup de matériaux qui vont rincer, craquer, clapoter, friturer, voilà, il y a plein de choses en termes de grains, en termes de spectre, qui sont vraiment très très belles dans ce qu'elle nous a proposé, et ça nous a inspiré, quand je dis nous, parce que c'était une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui ont travaillé sur ces compositions, pour proposer une extension à partir de ces sons qui sont des sons très documentaires, puisqu'elle s'en sert de cette manière-là. Elle, ça lui sert à voir un peu ce qui se passe sous l'eau, comment les populations évoluent, ce qu'elles y font. Voilà, donc c'est une conduite très très scientifique du sonore. Nous, ça nous a permis d'étendre et de travailler un monde plus imaginaire à partir de cette matière.
Est-ce qu'il y a un son qui a retenu particulièrement votre attention dans cette banque sonore ?
Alors, il y a un son qui est très fort parce qu'il est très présent. Ce sont des crevettes. Elles sont presque partout. C'est ce qu'elle appelle les crevettes pistolets ou les crevettes claqueuses.
Donc ça, c'est le son d'une crevette claqueuse. Mais quand il y en a plein, c'est ce qu'on a entendu ce matin, cet après-midi.
Et la poêle, les pop-corn, le feu, la pluie. Ça, en fait, c'est des petites bestioles. C'est surtout des petites crevettes. Ce qui s'appelle les crevettes pistolets ou les crevettes claqueuses. On ne peut pas les voir. Elles se cachent dans les pierres, sous les pierres, dans les petits trous dans les pierres. Elles sont aussi dans les récifs coralliens. Non, elles ne sont pas dans les algues. Elles sont vraiment dans des éponges, parfois. Elles peuvent être dans des éponges, à l'intérieur des éponges. Et en fait, on l'appelle la crevette pistolet. Petite crevette qui fait...
Merci Lucia, mais est-ce qu'on pourrait donner le mot de la fin à la rascasse ? Merci beaucoup.